André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Bob Moran dans la vallée infernale, l'aventurier contre tout guerrier. Vous avez reconnu la chanson d'Indochine qui parle du héros de l'écrivain belge Henri Verne. Et c'est en effet le sujet de notre émission aujourd'hui que nous allons passer en compagnie de Françoise Bénard. Bonjour Françoise.
Bonjour à tous.
Et Pierre Rougeau. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Nous allons en effet consacrer une série de quelques émissions à Henri Verne et des extraits de ses œuvres, soit 229 romans d'aventure souvent mêlés de science-fiction, se déroulant dans le monde entier, voire dans des univers parallèles, comme dans le cycle d'Ananke, ou alors dans les arcanes de l'espace-temps, comme dans le cycle du temps, écrit par ce romancier belge d'expression française, né le 16 octobre 1918 à Hatte, dans la province de Hainaut. Et il est mort le 25 juillet 2021 à Bruxelles. Créateur du personnage de Bob Moran, en 1953, Henri Verne a publié ses romans dans la collection Marabout, dont nombreux ont été adaptés en bande dessinée, en série télévisée, en dessin animé et en jeu vidéo. Nous allons commencer par son premier roman de la série Bob Moran, mais d'abord quelques éléments de biographie de l'auteur. Charles-Henri de Vim, né à Hatte, dans le Hainaut. Nous l'avons dit le 16 octobre 1918 et ses parents se séparent avant qu'il ait un an. Et Charles part vivre à Tournai, où il est élevé par ses grands-parents maternels, Jean-Baptiste et Lucille Dupuis. Il fréquente le collège Notre-Dame jusqu'à l'âge de 16 ans, décroche de l'enseignement, travaille dans la boucherie paternelle, puis reprend ses études à Enghien. En 1937, à l'âge de 19 ans, ayant rencontré une Chinoise dans le port d'Anvers, il délaisse ses études et s'embarque à Marseille avec de faux papiers pour la suivre en passant par Port-Saïd, Djibouti, Colombo, Singapour, Saigon et Hong Kong jusqu'à arriver à Canton où la belle tenait, je cite, « un bordel flottant ». De retour en Belgique, il épouse en 1940 Gilberte, fille d'un diamantaire anversois, qui l'initiera à cette profession. Le couple se sépare un an plus tard. Durant la Seconde Guerre mondiale, il se joint à la résistance et devient agent des services de renseignement belges. Amoureux d'une agente du MI6, il travaille à son tour pour les services secrets britanniques. C'est aussi pendant la guerre en 1944 qu'il publie sous son vrai nom un premier roman, intitulé « La porte ouverte ». En 1945, il va vivre à Paris, mais revient en Belgique en 1949, après la parution de son deuxième roman, « La belle nuit pour un homme mort ». Au cours des années 1950, alors qu'il est journaliste pigiste, De Vim se voit recommander au directeur de la maison des éditions Marabout, Jean-Jacques Schellen, qui veut lancer une nouvelle collection pour sa jeunesse. Pour Schellens, De Vim rédige d'abord un récit intitulé « Les conquérants de l'Everest », livre consacré à la première ascension de l'Everest et publié sous le nom d'Henri Verne. Naît ensuite la série des Bob Moran, le premier livre de la série « La vallée infernale » dont nous allons parler et dont l'action se déroule en Nouvelle-Guinée, est publié en décembre 1953 et connaît un grand succès. Une seconde aventure de Bob Morad, La galère engloutie, dont nous parlerons dans une prochaine émission, paraît en 1954. Suivent plusieurs dizaines d'autres romans au fil des ans. Durant sa période la plus productive, Verne parvint à produire jusqu'à 6 romans par an, certains écrits en un mois. En 1977, Verne quitte la maison Marabout. Mais les aventures de Bob Moran ne s'arrêtent pas pour autant. La série va jusqu'à compter 164 titres en 1993. Verne adopte en 1983 le pseudonyme de Jacques Colombou pour créer Don, une série pour adultes mélangeant action et érotisme qui se situe entre SAS et San Antonio. Ce nouveau cycle, qui comprend une dizaine de titres, s'arrête en 1886. Verne fait alors renaître Bob Morad en 1988 avec L'arbre de la vie. Il écrit aussi de nombreux articles en tant que journaliste et plusieurs autres romans sous divers pseudonymes. Au total, il est l'auteur de 230 titres, totalisant 40 millions d'exemplaires. En 2012, il publie son autobiographie « Mémoire » aux éditions Jourdan. Henri Verne meurt à Bruxelles le 25 juillet 2021 à l'âge de 102 ans. Il n'a pas eu d'enfant et a légué la totalité de son héritage à une fondation pour les animaux.
Théâtralité, l'actualité du théâtre amateur.
La Vallée Infernale est le premier roman d'Henri Verne, publié en 1953, et voici le premier extrait du premier chapitre lu par Françoise et Pierre.
L'avion faisait à présent route vers le sud-est, à travers un espace purifié par les feux du soleil. Au bout d'une demi-heure, un cône tronqué, dont la couleur grise tranchait sur le vert profond des autres montagnes, se dressa sur la droite. C'était le mont Kinyadong. Sur les flancs de l'ancien volcan, composé de lave et de pierres ponces, la végétation s'accrochait à peine, leur donnant un aspect désolé. Mais plus bas, la forêt reprenait ses droits. Par deux fois, Moran contourna la montagne, faisant même plonger l'appareil dans le cratère à moitié comblé, gigantesque entonnoir à l'aspect lunaire, couronné par un large anneau circulaire à l'arête aiguë. « Et votre village pygmé, où se trouve-t-il » demanda Moran à l'adresse des Australiens. Lewis Broome traversa l'appareil dans toute sa longueur et pénétra dans le poste de pilotage. Il se tint derrière Moran et, du doigt, lui désigna une clairière située à flanc de colline. « Vous allez atterrir là !» dit-il. Ces mots frappèrent le Français comme autant de coups de poing. Il sursauta et se tourna vers Broome. « Atterrir » fit-il. « Vous voulez rire ?» Mais le visage de Broome était toujours aussi glacé. « Vous allez atterrir » répéta-t-il d'une voix coupante. Contre sa nuque, Moran sentit le froid contact qu'un canon de revolver. Vraiment, l'Australien ne plaisantait pas. « C'est de la démence, Broome !» dit Moran d'une voix calme. « Cette clairière est trop petite pour y faire atterrir un Mitchell !» En outre, elle est située sur une pente et son sol doit être parsemé de nids de poules. « Nous avons 99% de chance sur 100 d'y laisser nos os. Vous avez été aviateur vous-même et vous devez le savoir. » Broome ricana. « Je n'ai rien d'autre à vous offrir pour l'instant, commandant Moran. À Port Moresby, le major Gibbs m'a d'ailleurs parlé de vous. « Non seulement vous êtes un des héros de la guerre, mais en 14 outre, vous étiez un des meilleurs pilotes de toute la Royal Air Force. Selon Gims, vous seriez capable d'atterrir sur une pièce de shilling. »« Peut-être est-ce vrai, fit Bob, mais cette clairière est loin d'être aussi plate qu'une pièce de shilling et je refuse d'atterrir. »« Refusez, commandant ?»« Je refuse. »
Une détonation assourdissante retentit dans l'oreille de Bob et un souffle brûlant passa contre sa joue. Devant lui, le plexiglas du pare-brise s'étoila. « La prochaine balle sera pour vous, » dit Broome, avec la même voix menaçante. Du fond de l'appareil, Ballantyne cria. « Vous feriez bien d'obéir, commandant. » Greb vous menace également de son revolver, et j'aime autant mourir dans un accident d'aviation que de recevoir une balle dans le ventre. » Moran tourna légèrement la tête et, par-dessus son épaule, regarda Brom. Ses yeux verdâtres ressemblaient à deux morceaux de verre, et le Français comprit tout de suite que cet homme n'hésiterait pas à aller jusqu'au meurtre s'il le fallait. « Si vous me tuez, dit Moran, l'appareil s'écrasera et vous mourrez en même temps que moi. » « Vous oubliez que je pourrais prendre les commandes après vous avoir tué. Je suis pilote également. Alors pourquoi n'essayez-vous pas de faire atterrir l'avion vous-même ? Parce que je n'ai pas votre maîtrise, commandant Moran. Vous êtes seul incapable de poser l'avion sur cette clairière et vous allez le faire. Vous m'entendez ? Vous allez le faire !» Bob comprit qu'il était inutile de discuter. Les Australiens étaient maîtres de la situation, pour le moment du moins, et mieux valait leur obéir. Il fit virer le Mitchell et revint vers la clairière. Serrant la forêt au plus près pour pouvoir profiter de toute la longueur du champ, il glissa le long de la montagne. Il savait avoir plus de chances de s'écraser que de se poser sans mal. Ses mains étaient crispées sur les commandes et une sueur glacée noyait son front, tandis qu'il se répétait en lui-même. « Tu dois réussir, Bob. Il faut que tu réussisses. » Non seulement quatre vies humaines, en plus de la sienne, dépendaient de lui, mais aussi la conversation de l'avion que la compagnie lui avait confiée. Il devait s'efforcer, malgré les circonstances, de ramener homme et appareil, sain et sauf, à Telefomine. Au passage, le Mitchell frôla dangereusement une frange de palmiers et des pales hachées par les hélices volèrent tout autour du fuselage comme de grandes chauves-souris affolées. À présent, la clairière était là, toute proche, pareille, avec les hautes herbes camouflant sur sa surface, un grand piège prêt à se refermer sur les audacieux qui venaient violer le silence de la montagne. Brusquement, les roues touchèrent le sol. Moran vira légèrement vers la gauche afin de remonter la pente et de s'en servir pour freiner la vitesse de l'avion. Progressivement, celui-ci ralentit et d'un coup d'œil, le Français comprit qu'il réussirait peut-être à l'immobiliser avant d'atteindre les premiers arbres. Puis, il eut un grand choc et le Mitchell se cabra, retomba en fracassant son train d'atterrissage et glissa sur le ventre en direction des arbres. Son aile droite heurta un palmier et il pivota sur lui-même. Il eut une série de petites heurts suivies d'un arrêt brusque. Arraché de son siège, Moran plongea en avant. Son menton heurta le tableau de bord et il perdit connaissance.
Cette histoire se déroule en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bob est pilote dans une compagnie aérienne et son travail consiste à transporter des marchandises de la côte à l'intérieur de l'île. Un jour, son patron le contraint à emmener trois passagers vers une région dangereuse. Le premier veut prendre une photo d'une vallée remarquable. Les deux autres veulent survoler l'endroit où leur bombardier s'est écrasé durant la Seconde Guerre mondiale. En réalité, ils veulent voler les yeux d'émeraude d'une statue adorée par les pygmées Negritos. Les trois hommes obligent donc Bob à atterrir, comme nous l'avons vu, non sans casse dans une clairière. Ensuite, les trois passagers lourdement armés s'enfoncent dans la forêt vierge. Quelques heures plus tard, Bob et Bill, qui sont restés près de l'épave de l'avion, Bill Ballantyne, son ami de toujours, et ils sont donc restés près de l'épave de l'avion pour appeler du secours. Ils entendent les bruits d'armes à feu et de grenades. Ce sont les trois bandits qui sont attaqués par les papous Alfourous, coupeurs de tête et anthropophages. L'un des hommes blancs est tué et les survivants sont faits prisonniers. Incapable de résister à son sens du devoir, Bob part à leur secours. Il va confectionner un radeau, naviguer sur une rivière souterraine et avec son ami Bill, ils sont surpris par une crue soudaine. Voici le deuxième extrait, celui-ci extrait du chapitre 4, lu par Françoise et Pierre.
Dans les ténèbres de la galerie inondée, Bob et Ballantyne savaient lutter longtemps contre l'eau qui, sans relâche, continuait à monter. Parfois, ils cessaient de nager et leurs mains tâtonnaient le long de la muraille dans l'espoir de trouver quelque saillie où se hisser et reposer un peu leurs membres engourdis. Mais, sous leurs paumes, ils ne rencontraient que le roc lisse et dépourvu de toute fissure, de toute aspérité. Alors, sous peine de couler à pic, il leur fallait se remettre à nager sur place en pédalant à la manière des joueurs de water-polo. Combien de temps luttèrent-ils ainsi, sans espoir? Ils ne devaient jamais le savoir. À moitié inconscient, toute force brisée, ils ne se maintenaient plus à la surface que par un réflexe de nageurs qui ne veulent pas s'avouer vaincus et qui, malgré tout, continuent instinctivement de se mesurer avec leur vieil ennemi, l'eau. À un moment donné, cependant, malgré la prodigieuse fatigue qui l'enveloppait et amenuisait ses sens, Moran avait l'impression de ne plus entendre le bruit du courant frappant la muraille. Le silence s'était refermé, total, dans la galerie. En même temps, les remous s'apaisaient, et le Français comprit que la crue s'était arrêtée. « Hé, Bill, dit-il, l'eau ne monte plus. » La réponse de l'Écossais lui parvint dans un souffle. « M'en fous, commandant. On va y passer, de toute façon. Je suis à bout. » Bob lui-même n'en pouvait plus. Il se sentait prêt de couler. Le plus sage aurait été de nager droit devant soi vers la sortie de la rivière souterraine, mais dans l'état d'épuisement où ils se trouvaient tous deux, à peine serait-il capable de franchir une centaine de mètres. De toute façon, ils ne parviendraient pas à regagner l'herbe libre. Ils étaient donc condamnés à mourir là, et noyés encore, ce qui, pour des nageurs de leur trempe, représentait bien la plus stupide des morts. Si seulement il existait une petite saillie de rien du tout, à laquelle se raccrocher pour pouvoir souffler un peu avant de faire le grand saut, songea Moran. Il se souvint alors n'avoir plus, depuis un bon moment, exploré la muraille. Ses mains tâtèrent droit devant lui et touchèrent le rocher. Ensuite, elles remontèrent lentement, vers une vingtaine de centimètres, à la façon d'insectes aveugles pour, brusquement, miraculeusement presque, plonger dans le vide, comme si la muraille s'était ouverte sous elles. Maintenant, les bras de Bob reposaient à plat sur le roc et ses mains tâtonnaient de nouveau en avant, cherchant à retrouver la paroi verticale, mais sans pouvoir y parvenir. « Une corniche ?» pensa Moran. « Ce n'est même pas une saillie, c'est une corniche !» En montant, l'eau les avait donc conduits elle-même vers le salut. Les coudes posés à plat, les mains rivées au roc, Bob s'était demandé comment il parviendrait à se hisser sur cette corniche providentielle. Il ne devait pas songer à accomplir un rétablissement, car, en dépit de la loi d'Archimède, ses bras engourdis n'auraient même pas été capables de soulever le poids d'un enfant de 6 mois. « Je dois y arriver, » murmura le Français. « Il me faut parvenir à grimper sur cette sacrée corniche. » Doucement, il imprima un mouvement de balancier à ses membres inférieurs de façon à les faire remonter à la surface comme s'il voulait faire la planche. Quand son corps fut étendu horizontalement sur l'eau, il jeta sa jambe droite vers le haut dans le but d'atteindre la corniche. Par deux fois, il échoua, mais à la troisième tentative, son talon accrocha le rebord du roc et, faisant appel à ce qui lui restait de force, il put se hisser péniblement hors de l'eau. Roulant sur le flanc, essoufflé, il demeura étendu sur le dos, incapable de faire encore un mouvement. Ce fut tout juste s'il put parler.
« Bill » appela-t-il. « Bill, j'ai réussi à m'en sortir. Une corniche !» La réponse de Ballantyne mit longtemps à lui parvenir. La voix du mécanicien n'était plus qu'un souffle, bien près de s'éteindre. « Corniche ? Ça n'existe pas, commandant !»« Tout est fini, fini !» La phrase s'acheva dans un gargouillement significatif. Bob était incapable de faire un geste pour aller au secours de son ami. 100 fois, il avait frôlé la mort ensemble et à présent, ils allaient être séparés pour toujours. Plus jamais, Bob ne dirait à Ballantyne « Et ne m'appelle plus, commandant !» Et jamais plus, Ballantyne ne lui répondrait « Bien, commandant !» Un sursaut d'énergie avait jeté Moran en avant. « Bill ! » cria-t-il. « Bill !» Sa main droite plongea sous lui, mais se referma seulement sur l'eau. Un peu plus loin, un second gargouillement se fit entendre. Et, à nouveau, la main de Moran plongea. Elle se referma sur un paquet d'étouffes visqueuses, la chevelure de Ballantyne et tira. Bob, le corps à moitié hors de la corniche, amena la tête de l'Écossais près de la sienne et cria. « Je suis sur une corniche, Bill !»« Tu m'entends ? Une corniche, et il ne nous reste une chance de nous en tirer maintenant !» Seul un vaste soupir lui répondit. « Une corniche ! J'ai trouvé une corniche !» hurla encore Moran. Cette fois, Ballantyne avait entendu. Il laissa échapper un de ses jurons choisis que seul un Écossais peut proférer sans mourir aussitôt de honte. « Mais alors, on est sauvé, commandant ?»« Oui, mon vieux, on est sauvé, ou presque. Mais tâche de m'aider à te tirer de la flotte. »« Oh, tu pèses aussi lourd qu'un éléphant !» Quelques minutes plus tard, les deux hommes étaient étendus côte à côte dans les ténèbres où seul leur souffle sonore décelait leur présence. Au bout d'un moment, Ballantyne prit la parole. « Vous savez, commandant, au moment où vous m'avez saisi par les cheveux, j'étais en train de couler. » À tâtons, sa main chercha celle de Bob et la serra. « Merci, commandant, » dit-il encore d'un mouvement sec. Bob libéra sa main. « Pas de sensiblerie, Bill, » fit-il d'une voix qu'il tentait de rendre la plus bourrue possible. « Et cesse de m'appeler commandant. »« Bien, commandant. » Cette réponse devenue désormais classique les ramena à la joie de vivre et ils se mirent à rire de façon débridée. Sans hystérie, un bon rire franc venant du fond de leur cœur. Ils étaient heureux de se retrouver là, tous les deux, vivants avec leurs vieilles blagues d'aviateurs solitaires. Ces blagues, toujours les mêmes, et qui pourtant paraissaient, et maintenant plus que jamais, toujours renouvelées. Vraiment, ils formaient une fameuse équipe tous les deux. Et puisque cette fois encore, ils s'étaient tirés d'affaire, rien, ni la solitude, ni les ténèbres, ne leur permettaient de désespérer.
Après avoir échappé à cette crue subite, Bob Moran doit creuser un tunnel, tuer le sorcier qui s'apprêtait à sacrifier les deux blancs, s'enfuir par les galeries d'un volcan, voler une pirogue, guider trois aviateurs américains perdus depuis 5 ans dans la forêt, permettre la victoire des Negritos dans leur guerre contre les Alfourous. Pour les remercier de leur aide, les Negritos offrent l'hospitalité à leur sauveur. Voici un extrait du chapitre 7. Lu par Françoise et Pierre.
Il était un peu plus de midi quand Moran et Reeves, au débouché de la forêt de rhododendrons, arrivèrent en vue de la falaise et non loin de l'endroit où se trouvait ou s'ouvrait l'entrée de la caverne. Reeves, qui inspectait soigneusement les alentours, fit la grimace. « J'ai l'impression, dit-il, que nous allons devoir poursuivre ces deux lascars dans la caverne si nous ne voulons pas qu'ils ameutent les Macquarie. » « J'en ai bien peur, » fit Moran à son tour. Soudain, il lui semble avoir bougé les feuillages devant lui. Puis, à quelques mètres de hauteur sur les boulis, quelque chose brilla, le temps d'un éclair. « Couchez-vous !» hurla Bob. Il se jeta sur Reeves et, d'un coup d'épaule, le fit basculer, le forçant à s'allonger entre les rochers plats parsemant le sol de la clairière. Aussitôt, une barre de feu bondit vers eux. On entendit le tac-à-tac sinistre d'un fusil mitrailleur et les balles frappèrent les rochers tout autour des deux hommes, faisant se lever de petits nuages de pierres pulvérisées. La joue écrasée au sol, Reeves tourna la tête vers Moran. « Nous ne devrions pas aller chercher Broome et Roras dans la caverne, dit-il. « Non, fit Bob, mais notre situation n'en est guère plus brillante. » Couchés à plat ventre entre les pierres plates qui les dissimulaient à peine, ils ne pouvaient faire un mouvement sans courir le risque d'être atteints par les balles de Broome et de Roras. Moran se demandait pourquoi les deux fuyards s'étaient arrêtés pour attendre leurs poursuivants, au lieu de continuer leur chemin sous le volcan. Soudain, il comprit et il sut que, s'il ne se trompait pas, il avait une chance de vaincre Broome plus sûrement que par les armes. Il leva la tête et cria « Broom, pourquoi nous avez-vous attendu au lieu de continuer votre route par la caverne ?» Pendant de longues secondes, seul, le silence répondit aux paroles du Français. Ensuite, la voix de Broom retentit, chargée de menaces. « Je voulais votre peau, commandant Moran. C'est pour ça que je vous ai attendu. » « Non, Broom, ce n'est pas pour cela. Si vous aviez voulu me tuer, et les autres en même temps, vous auriez pu le faire avant de quitter le camp, alors que nous dormions tous. Non, Broom, la véritable raison de cette embuscade est que, une fois en route, vous vous êtes aperçu que vous n'aviez pas de boussole pour orienter dans la caverne. Alors, n'osant revenir sur vos pas, vous nous avez attendus, comptant nous abattre par surprise et prendre la boussole. Mais c'est raté, Broom. » Là-bas, le rire métallique de l'Australien retentit agressif. « Raté ! Montrez votre tête, commandant, et vous allez voir si c'est raté !» Moran se mit à rire doucement, comme s'il s'apprêtait à jouer un bon tour à quelqu'un. « Passez-moi la boussole !» souffla-t-il à Reeves. L'Américain donna le précieux appareil à Bob et celui-ci, glissant avec précaution la main le long de la pierre plate contre laquelle il était couché, il posa la boussole sur sa tranche à un endroit où Broom pouvait l'apercevoir nettement. « Broom ! » cria-t-il. « J'ai posé la boussole sur cette pierre. Notre unique boussole. Si vous tirez, vous risquez de l'atteindre. » À nouveau, le silence seul pesa. « Reculons, afin de nous mettre à l'abri, » dit Bob. « Ayez soin de bouger de façon à ce que la boussole demeure toujours dans le champ de tir. » Moran savait qu'il jouait gros jeu, mais quelque chose lui disait cependant que Broom ne tirerait pas. Doucement, toujours à plat ventre, les deux hommes se mirent à reculer. Parfois, entre les deux pierres plates, ils apparaissaient complètement à découvert, mais la petite boîte noire de la boussole, posée entre eux et leurs adversaires, les protégeait, tel un talisman. Une salve pouvait atteindre la boussole en même temps qu'eux, et Bob le savait. L'Australien ne se sentait pas décidé à courir un tel risque. Bientôt, les deux hommes atteignirent l'abri d'un gros rocher, leur offrant une protection sûre. « Vous voyez, Broom, lança Moran, vous n'avez pas tiré. Je savais que vous ne tireriez pas. » Cette fois encore, il n'y eut que le silence pesant de la vallée endormie dans l'épaisse chaleur de la méridienne. La situation menace de s'éterniser, fit Reeves à voix basse. Bob eut un jet de négation. « Pas si mon petit plan réussit, dit-il. Je vous ai dit que Broom n'était pas un lâche. Pourtant, je connais au moins une chose dont il a peur. « Je ne vous comprends pas. Vous allez comprendre tout de suite. Que comptez-vous faire, Moran ? Un petit peu de chantage, tout simplement. « Broom ! » cria-t-il à nouveau. « Vous et Rojas allez jeter vos armes immédiatement et descendre vers nous les bras levés. » Le ricanement d'Australien retentit, faisant songer au grincement d'une scie à métaux attaquant un acier dur. « Jeter nos armes ! » « Pourquoi ne venez-vous pas les chercher, commandant, puisque vous paraissez si sûr de vous ?»« Si vous n'obéissez pas, Broom, je pulvérise la boussole d'une balle. »« Comme si elle ne vous était pas aussi utile qu'à nous, commandant. »« Non, Broom, nous ne pouvons demeurer dans cette vallée. Vous et Rojas, vous vous en êtes rejetés. D'autre part, vous voulez les émeraudes et vous, pour aller les chercher, il vous faut passer par la caverne. » « Sans boussole, vous risquez fort de ne vous y perdre. Elle a donc plus de valeur pour vous que pour nous. Croyez-vous que j'ai peur, commandant ?»
Pendant un instant, Moran s'abstint de répondre. Puis il jeta encore. « Non, vous n'avez pas peur, Broom. Vous n'avez pas peur de la jungle. Vous n'avez pas peur des Alfourous et de leur torture. Mais vous avez peur de la caverne et de ses ténèbres. Sans la boussole, vous y tournerez en rond. Vos torches s'éteindront et vous errerez jusqu'à ce que vos forces vous trahissent. Alors, vous tomberez et la faim, la soif et la folie auront raison de vous. Mais avant de mourir, il vous faudra attendre des heures, des jours peut-être. Des heures, des jours, sans espoir, dans cette obscurité glacée et humide. Voilà de quoi vous avez peur, Broom. Cette fois, il y eut un silence définitif. Morane braqua son fusil mitrailleur en direction de la boussole. Rives lui posa la main sur le bras. « Êtes-vous certain de ce que vous faites ? » demanda-t-il. « N'ayez crainte, » fit Morane. « J'ai l'œil sûr. De toute façon, si mon bluff ne prend pas, il nous restera à employer la force. » « Ok, » murmura l'Américain, « je vous fais confiance. » Bob se retourna en direction de l'endroit où Broom et Roja étaient embusqués. « Il vous faut choisir, » cria-t-il. « Ma troisième balle écrasera la boussole. Êtes-vous décidé à vous rendre ? Allez-vous faire prendre, vous et votre boussole ?» hurla l'Australien. « Très bien, vous l'aurez voulu. » Soigneusement, Bob visa et pressa la détente. La balle fit voler un petit nuage de pierre pulvérisée à 20 cm de la boussole. Du côté de Brom, il n'y eut aucune réaction. Un deuxième nuage de pierre pulvérisée s'éleva, mais à moins de 10 cm de la boussole cette fois. Rien ne bougea chez l'ennemi. Une sueur froide perlait sur le front de Bob. Les muscles tendus de sa face lui faisaient mal. Si son plan échouait, il faudrait se résoudre à donner l'assaut, sous peine de se trouver bloqué devant cette maudite caverne. Il fallait absolument regagner l'épave du Mitchell avant l'arrivée des secours. « J'ai dit que ma troisième balle écraserait la boussole, » déclara encore le Français. « Je suis décidé à tenir parole. » Le silence le plus profond lui répondit une fois de plus. Soudain, la voix de Brom s'éleva, presque suppliante. « Ne tirez pas, ne tirez pas !» La tension nerveuse étreignant Bob et Rivers se relâcha. L'Australien continuait. « Vous avez gagné, commandant. Nous tenons pas à mourir dans ces cavernes. Que devons-nous faire ? Jetez vos armes, fusils mitrailleurs et revolvers, et descendez les mains au-dessus de la tête. » Les deux Thompson et les deux Colt atterrirent dans la clairière. Reeves et Bob échangèrent un sourire. « S'il n'avait pas répondu, demanda l'Américain, vous auriez tiré sur la boussole ? Pourquoi ne pas me demander plus tôt si je me serais envoyé une balle entre les deux yeux ? » fit Morane. Les mains en l'air, Brom et le Portugais étaient sortis de leur cachette. La colère et le dépit se peignaient sur leurs traits crispés. Tandis que Reeves récupérait la boussole, Morane s'avançait vers eux. Le Thompson braqué. Les yeux de Brom s'emboyèrent. « Vous avez encore gagné cette fois-ci, » dit-il d'une voix agressive. « Mais il y aura bien un moment où la chance tournera. »« Elle ne tournera jamais, monsieur Brom. Depuis le moment où vous m'avez forcé à atterrir dans cette jungle, vous en avez fini avec la chance. Quand je vous lâcherai, ce sera pour vous remettre entre les mains des autorités australiennes. Vous saurez alors ce que votre mère patrie fait des individus de votre espèce. » « Soyez heureux que je ne vous tue pas tout de suite d'une rafale dans le ventre, comme vous le mériteriez. »
Quelques jours passent avant qu'arrivent les hélicoptères de secours. Les bandits profitent de l'agitation qui en résulte pour voler les émeraudes. Ils sont découverts par les pygmées qui tuent l'un d'eux. L'autre s'enfuit dans la forêt. Pour remercier Bob et Bill d'avoir sauvé les pierres sacrées, le chef des négritos leur offre une poignée d'émeraudes. Quelques jours plus tard, Bob est resté à Port Moresby pour faire des dépositions et Bill est rentré en Écosse. Il repère et fait arrêter par la police le dernier des voleurs alors qu'il tentait de l'assassiner pendant son sommeil pour lui voler des joyaux. Et voilà pour la vallée infernale. Merci Françoise, merci Pierre. Nous poursuivons nos émissions sur Henri Verne et Bob Morane dans les prochaines semaines. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. « Ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on ne tient pas à la vie. Au contraire, c'est parce qu'on est vieux qu'on en connaît le prix. » Elle est, bien sûr, d'Henri Verne, dans le tome 127 de Bob Morane, « Les murailles d'Ananke ». Vous retrouverez toutes les informations et bien d'autres sur le site de l'Union régionale FNCTA. fncta-medipi.fr. Et si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur. C'est du théâtre, de qualité, joué, mise en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.